France Inter. France Inter, le 18-20. Fabienne Sintès.
Un jour dans le monde ce soir, c'est un jour dans une Afrique de l'Ouest qui paye encore en franc CFA.
Ce que je veux dire sur la question du franc CFA, nous sommes tous convaincus, toutes les élites sont convaincues qu'il y a un problème avec cette monnaie et qu'elle ne colle pas à nos impératifs de développement et qu'il faut qu'on assume nos responsabilités pour aller vers autre chose.
Et ça, c'est le nouveau Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. C'était il y a 3 semaines, le détachement du franc CFA. C'est l'une des grandes promesses de campagne au Sénégal. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'on entend sur l'ouest du continent parler de la fin du franc CFA. Et la question qu'on va essayer de poser ce soir est de savoir si ce franc CFA reste un facteur de stabilité monétaire ou si c'est juste et encore un relent de colonialisme. Bonsoir Lionel Zinsou. Bonsoir.
Bonsoir et merci. Écoutez, c'est une monnaie qui fait assez bien son travail parce que, à la différence de la grande majorité, malheureusement, des monnaies africaines qui sont, avec tous les chocs qu'on a eus de Covid, d'inflation ukrainienne, pour certaines d'entre elles vraiment un peu en chute libre, à la différence de cela, c'est une monnaie stable. Parce que là, une parité est fixe, donc ça permet une visibilité dans toutes les transactions. Donc c'est une monnaie qui fait assez bien son travail de paiement, son travail de garder la valeur de l'épargne. C'est au point que dans mon pays, le Bénin, qui est frontalier du Nigeria, les commerçants nigérians, les producteurs, les agriculteurs, essayent de vendre de l'autre côté de la frontière, parce que quand ils auront, au fond, du franc CFA en contrepartie de leurs produits, eh bien, un an après, ils auront toujours la même valeur et non pas 25-40% de moins, chose qu'on voit dans certaines monnaies. Donc, elle fait son travail de monnaie. En revanche, symboliquement et politiquement, et historiquement, elle fait pas très bien ses relations publiques.
Et c'est là qu'on va aller, on va essayer d'osciller, si je puis dire, entre les deux. Je l'ai pas dit, mais vous êtes économiste et vous avez été Premier ministre du Bénin. Est-ce qu'on peut rapidement faire juste un peu d'histoire et très très vite pour les gens qui nous écoutent et remettre un contexte? On est d'accord, le franc CFA, c'est 1945, c'est la France qui a besoin d'une monnaie unique pour sa gestion des ressources des colonies. C'est comme ça que ça commence, en fait, aussi bêtement, si je puis dire.
Oui, enfin, c'est un compartiment du franc.
C'est ça.
Voilà. Il se trouve que les gens ignorent qu'en réalité, il y a eu déjà depuis 1853 une émission spéciale de monnaie dans la région. Ça s'appelait la Banque du Sénégal. Et donc, c'est assez ancien. Mais en 1945, ça s'appelle effectivement le CFA. Et tout le monde a oublié que c'est revalorisé en 48, parce que la situation économique dans la métropole est difficile, c'est vraiment, on relève
on
les ruines.
On est au sortir
et
de la
guerre. Et elle est meilleure, parce qu'il n'y a pas eu de destruction dans la zone franc, dans les pays d'Afrique subsaharienne. Il est donc revalorisé en 48 et il sera très stable parce qu'il n'aura qu'une dévaluation.
La grosse dévaluation.
En 1994.
Dévaluation comme une dévaluation quand même, parce que divisé par deux, autant que je sache sa valeur, c'est beaucoup.
Ah oui, mais c'est beaucoup moins que toutes les monnaies, notamment par exemple le franc français, si vous voulez. Parce qu'il faut bien voir que d'avoir une dévaluation en 70 ans, si vous voulez, c'est vraiment une robustesse incroyable, notamment par rapport à des monnaies de pays en développement. Mais ça ne change rien au fait que, symboliquement, pour ces pays d'Afrique francophone subsaharienne, et notamment pour leur jeunesse et leur quête d'identité, il y a toute une série de symboles.
Bien sûr.
Et ces symboles passent mal alors qu'ils passent bien ailleurs. Si vous voulez. Les Rwandais ne vous disent pas, c'est horrible, ma monnaie s'appelle le franc rwandais parce j'étais une colonie belge. Et les Djiboutiens vous disent pas, c'est horrible, j'ai des francs Djiboutiens.
Et effectivement, ça vient de l'histoire de nos colonies. Est-ce que d'ailleurs, dès les années 60, donc le début des indépendances, est-ce que la question a été mise sur le tapis dès ce moment-là de ce franc CFA?
Non, pour dire la vérité, ça a plutôt été considéré, même par les partisans les plus fervents de l'indépendance politique et de l'indépendance économique, même chez tous les adversaires de la France-Afrique, ça n'est venu en situation que, je dirais, dans les 10 dernières années, et curieusement, plutôt par la jeunesse. Mais si vous voulez, c'est d'une certaine manière, dans le domaine de l'art, avec les restitutions des objets royaux, on a la même quête identitaire et souveraine. Et moi, je trouve que ça, c'est respectable. En revanche, il faut pas dégrader les bienfaits. Et ce qui est très intéressant au Sénégal, c'est qu'en fait, les premières déclarations du président Diomaye Faye et du Premier ministre Sonko ont été extrêmement prudentes en mettant l'accent sur ce qui est le vrai intérêt du franc CFA.
Mais alors justement, parce que ce qu'on entend, c'est il faut en sortir, puisque c'est la France qui profite du franc CFA.
Et franchement...
Vous venez de nous expliquer effectivement qu'il se tient bien et qu'il tient bien aussi les pays qui sont au franc CFA. Et donc la question, c'est à qui profite le franc CFA aujourd'hui ? Est-ce que vous...
Ah ben, il profite, et c'est curieusement, ça a été dit par le président élu, et il profite à l'intégration. Ce qu'il y a de bien, c'est que il y ait 8 pays en commun dans l'Afrique de l'Ouest et très proche, 6 pays en Afrique centrale qui ont la même monnaie et qui, du coup, ont une facilité d'échange entre eux. Et tout l'avenir de cette région, c'est de faire un grand marché.
Effectivement, vous
le
disiez.
Et c'est un très bon instrument d'intégration.
Voilà, deux unions monétaires, effectivement, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. La question que je me demandais, c'est précisément, est-ce qu'on peut vraiment sortir tout seul du franc CFA ? Est-ce que c'est forcément un groupe entier qui sortira ?
Alors, les trois pays, il semble que les trois pays du Sahel...
Qui sont déjà sortis de la CEDEAO de toute façon.
Mais ils sont prudents. Ah oui, mais l'élection du Sénégal change un peu
alors,
tout.
Alors, c'était parce aussi
que
ma question.
Le premier thème du président Diomaye Faye, c'est l'intégration. C'est très important. Donc, on va essayer de réformer la monnaie à l'intérieur de la CEDEAO, qui est très importante. Donc, les pays sahéliens, les trois pays
qui sahéliens, sont sortis.
Eux disent qu'ils sont sortis. Mais le fait que le Sénégal dise « c'est très important, on va réformer les méthodes », en fait, c'est tout se passe comme si le Sénégal allait faire de grands efforts pour faire revenir le Mali, le Burkina et le Niger dans une CEDEAO réformée. Je pense que c'est ça l'actualité. Et vous savez, il y a plein d'espaces d'amélioration du franc CFA, à commencer par changer son nom.
Oui.
Et il y a plein d'économistes qui ont vraiment travaillé là-dessus. On appelle ça l'écho demain, enfin, ça a été repoussé à 2027. C'est fou ce qu'on peut faire d'amélioration du système bancaire, de la microfinance avec cette monnaie. Donc, on a beaucoup d'espace de réforme.
Lionel Zinsou.
Donc, moi, je pense qu'il va durer longtemps. Hein.
Alors, il y a déjà eu, de toute façon, une tentative, et puis tout ça semble long et difficile. Est-ce que, précisément, et vous l'avez un peu effleuré, parce qu'il y a le Sénégal aujourd'hui, parce qu'il y a eu cette élection et parce qu'il y a ce nouveau président, on va se retrouver vers une vraie accélération, en fait, du phénomène, et que tout ce qu'on a, pour l'instant, sinon raté, en tout cas tout ce qui a été lent pour l'instant, va pouvoir réellement s'accélérer grâce au Sénégal.
Mais écoutez, oui, c'est ça le paradoxe. Moi, je pense qu'on va avoir, en fait, une monnaie qui sera commune. Ça s'appellera peut-être pas le franc, parce qu'après tout, la tribu germanique des francs, c'est quand même un peu loin.
Puis symboliquement,
un peu loin.
Voilà, symboliquement, c'est
déjà,
bien d'arrêter le
franc. Déjà, on a rendu toutes les réserves, parce qu'il y avait ce fantasme, la France garde la moitié du trésor.
Ah ouais.
Bon, c'est pas du trésor, c'est des moyens de paiement au jour le jour pour les pointes d'importation.
Et ça, mais c'est enfin, très récent, hein. Ça date de 2019, la rencontre entre Emmanuel Macron et Alassane Ouattara, dont acte, il leur dit...
Exécuté en 9 milliards d'euros sont revenus dans les caisses de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Donc, si vous voulez, on a commencé le travail de réforme, mais il sera beaucoup plus fort avec une traction sénégalaise. Mmh. C'est ça le paradoxe. Et ils ont bien dit, d'abord, il faut mettre nos économies en ordre. Il va falloir que nos finances publiques et nos exportations, tout ça, aient une dynamique pour qu'on puisse se payer une totale, autonomie, qu'on ait besoin de la garantie de personne.
Ouais.
Cette garantie du franc CFA, c'est quelque chose qui est un bon instrument, parce qu'en fait, elle ne sert jamais, mais le fait qu'elle soit là, ça dispense qu'elle serve, parce que les gens se disent bah, puisqu'il y aurait une garantie virtuelle, et ça c'est quand même très très économique. C'est-à-dire, la France et maintenant la BCE, la Banque Centrale Européenne, garantissent en permanence qu'on pourra obtenir les quantités de francs CFA qu'on veut. Et on ne tire jamais la garantie. Donc c'est très économique et assez efficace. Il faut qu'on trouve un substitut à ça, parce que manifestement, les gens veulent s'en émanciper.
Ouais.
Qui donne la confiance. Maintenant, on a 2-3 ans de réforme pour faire de la confiance autour de la nouvelle monnaie. Mais ce qu'il y a d'important dans le franc CFA, c'est que c'est la monnaie de 15 pays. Et qu'on a besoin de faire en Afrique des grands ensembles économiques. C'est ça qui rend compétitif. C'est pas de manipuler des monnaies pour qu'elles soient plus faibles. Et je crois que c'est ce qui a été dit exactement par le président du Sénégal.
Mais à quoi ça va ressembler? À quoi ça doit ressembler? Est-ce qu'il faut que la parité soit toujours fixée sur l'euro? Est-ce qu'il faut faire rentrer cette nouvelle monnaie sur le marché d'échange?
Vous savez, si vous êtes familière du Maroc,
ouais.
Le Maroc, lui, il a un panier de monnaie. Il n'est pas, il ne cherche pas à être exactement, mais il l'est en fait à quelques pourcents, rattaché à l'euro. Et c'est un panier où vous avez du dollar et une moyenne, en fait, dollar et euro. On pourrait y ajouter du yuan, puisque la Chine a de plus en plus d'importance. On peut faire un panier de monnaie et essayer d'avoir, sur la moyenne de ce panier, une certaine stabilité. Aujourd'hui, l'euro fluctue, comme toutes les monnaies. C'est pas donc choquant qu'une monnaie africaine fluctue, mais elle fluctue en fonction de ses besoins, en cherchant à être, au fond, quand même, le plus stable et visible possible. C'est pour ça que vous avez toujours 10 dirhams pour un euro, parce qu'on arrive à le faire sans la garantie de personne par ses propres moyens. Et je pense qu'on va aller vers ça.
Une dernière question, Lionel Zinsou. On n'ignore pas effectivement la présence de la Chine en Afrique particulièrement, la présence de la Russie de plus en plus. Est-ce que ça les intéresse, eux, qu'il y ait une nouvelle monnaie, une monnaie unique? Est-ce que ça les gêne? Est-ce qu'ils s'en fichent complètement, en fait? Ça change rien pour eux?
Alors d'abord, la présence de la Russie n'a rien à voir avec la présence avec la Chine.
On est d'accord, la présence économique, mais enfin, il y a aussi une histoire d'influence qui joue, en fait.
Oui, d'abord, il y a des craintes européennes très 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 fortes et très légitimes. Mais évidemment, on ne peut pas comparer les deux. La Chine, en revanche, est le premier exportateur et le premier importateur. Encore que si vous faites masse de toute l'Union européenne est devant la Chine, pour toute l'Afrique. Mais si vous voulez, au fond, l'Afrique veut absolument maintenant être émancipée de ses blocs, tout en ayant une certaine visibilité. Mais c'est techniquement, on sait faire ça. Je vous dis, regardez le Maroc, jusqu'à un certain point, le rand sud-africain, qui se dévalorise un peu, est quand même, au fond, relativement stable, et fédère autour de lui une vraie zone que les gens ne connaissent pas. Et donc, on peut faire ça très bien entre Africains.
Eh ben, on a entendu votre optimisme et on en est ravis, Lionel Zinsou. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir couru pour venir jusqu'à nous, parce que vous avez vraiment couru. Allez, merci beaucoup.
Merci à vous.
Le 18-20, Fabienne Saintès. Sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le reportage d'un jour dans le monde. Au Portugal, qui a du lithium, mais aussi une farouche opposition pour l'extraire. Pour aller jusqu'à 19h, il y a Kevin Dufraîche sous les radars.
Aux États-Unis, pour vous présenter Caitlin Clark, la nouvelle star du basket.
Le monde à 18h50, c'est Antoine Malo. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Est-ce qu'une tribune publiée par des chefs d'État peut arrêter les combats à Gaza? Rien n'est moins sûr.
Et Caroline au pays des 27, comme chaque mardi, avec Caroline Gillet. Salut Caroline.
Bonsoir. Petite Laura Verrec voulait être espionne. Elle n'en est pas loin aujourd'hui. Aujourd'hui, elle traque et surveille les lobbies à Bruxelles grâce notamment à des documents secrets.
Allez, à tout de suite. Tout le monde, le tour de la planète continue. Il reste un peu en Afrique. Tiens, nous sommes au Mali avec Abou Diarra et Toumani Diabaté. Djarabi, c'est le titre. Et Djarabi, ça veut dire mon amour, figurez-vous, en bambara.
Djarabi, Kanata, Djakelena, Mirimani. Parola, anga chufe, parola. Nebe mirila, kanula, ne kanonyo berela. Mirila, Sherila.
Nous sommes au Portugal, où, vous le savez peut-être, les plus grandes réserves de lithium, roche d'Europe, sont là. Et le lithium, eh bien, c'est l'or du 21e siècle. Les batteries de nos voitures, de nos vélos ont notamment besoin de lithium. Nous savons tous, en Europe, que nous devons nous défaire de notre dépendance à la Chine et extraire nous-mêmes ce précieux lithium. Sauf que, quand ça devient concret, qu'il faut ouvrir une mine sur le sol européen, évidemment, c'est une autre histoire. On le sait, nous, en France, avec le projet de mine dans l'Allier, par exemple. On le sait au Portugal, avec un projet de mine à ciel ouvert, celui de la compagnie minière Savannah, dans le nord du pays, à Covas do Barroso. Ce projet est très vivement contesté. La mairie a porté plainte et refuse l'extraction, pendant que les habitants font des rondes en montagne pour empêcher l'entreprise d'avancer en attendant une décision de justice. Il faut dire que la région est classée patrimoine mondial agricole pour la beauté de ses paysages et de ses pratiques agricoles durables aussi, en harmonie avec la nature. Le reste, c'est Julie Pietri qui raconte avec Johanna Gabric.
C'est loin ?
Non, c'est à environ 2 km d'ici. On va passer sur un pont, une rivière.
Carlos Gomes Gonçalves est apiculteur ici à Covas do Barroso, une terre peu peuplée, une terre de montagne et de forêt de pins où il a installé ses ruches.
Notre résistance est organisée, on se relaye. Parce que s'il n'y a personne ici pour bloquer, ils prennent les machines et ils commencent à travailler. Ils ne respectent rien, ils veulent passer en force. Mais on ne va pas laisser faire ça, c'est impensable.
Ça, c'est la machine de Savannah ?
Oui, c'est celle-là.
Puisque la justice n'a pas encore tranché, Carlos et une poignée d'autres habitants montent la garde sur cette route de terre, pioche en main et fil de fer entre les doigts. L'apiculteur rassure d'ailleurs assez vite le conducteur de la pelleteuse.
Il n'y a aucun problème. C'est pour les abeilles. Ça va ? C'est vous qui allez dans la machine ? La machine, c'est comme d'habitude. Elle ne travaille pas.
Elle ne travaille pas ?
Non.
Normalement, votre travail ici, c'est quoi ? Vous devriez faire quoi ?
Faire une plateforme par là. Après, il y aura une machine pour forer. La dernière fois, ils ne m'ont pas laissé faire. Et là, c'est pareil. Lui, il se met devant la machine. On ne va pas lui passer dessus.
L'entreprise Savannah veut creuser 4 cratères dans la montagne. Ses promesses, 500 000 batteries de véhicules électriques par an et un contrôle rigoureux de l'eau, de l'air à cause des poussières soulevées et du niveau sonore aussi lors des explosions.
Le lithium n'est pas une menace pour l'environnement. C'est une clé pour le préserver. C'est une opportunité que le Portugal ne peut pas se permettre de manquer. Au nom de la planète, du développement économique du pays, des régions du centre et du nord qui peuvent prospérer grâce aux ressources naturelles critiques dont elles disposent.
Il y aura 2000 emplois à la clé, promet encore Savannah. Lucia Mo, présidente de la mairie de Covas do Barroso, n'achète pas.
En principe,
d'abord, on n'a pas d'habitants pour aller travailler dans la mine. Nous sommes une population âgée et ceux qui ont un travail ne vont pas le lâcher parce que cette mine est censée durer 16 ans. Et après, et qui peut vivre là jour et nuit avec une mine à ciel ouvert ? C'est inimaginable.
Justement, Nelson Esteves Gomes vit à quelques centaines de mètres seulement de 2 futurs cratères. Cet éleveur, 25 vaches laitières, préside l'association de défense du village.
Une de nos plus grandes préoccupations, c'est l'eau. Ici, elle est excellente. On peut boire n'importe où, dans le fleuve, dans les fontaines. À partir du moment où ils ouvriront la mine, ça va complètement changer. Parce que pour séparer le lithium de la roche, ils auront besoin d'utiliser des produits toxiques. Nous ne devons pas être sacrifiés au nom de la transition énergétique. Puis il y a un autre problème, la quantité énorme d'eau nécessaire pour l'extraction.
Avec ce type de mine, le plus grand problème, estime Antonio Fiusa, professeur émérite à l'université de Porto, qui a longtemps collaboré avec l'industrie, c'est bien cette question de l'eau.
Quand on creuse et que le trou est plus profond que le niveau de la nappe phréatique, il y a un afflux d'eau au fond. Et cette eau doit être pompée. Même si une grande partie est recyclée, il y a une transformation complète de la circulation souterraine de l'eau et donc de la façon dont vont se recharger les fleuves et les rivières. Ça doit être bien géré.
La confiance semble aujourd'hui rompue. Les tensions sont vives entre compagnies minières et riverains. Et l'Agence portugaise pour l'environnement, qui a donné son feu vert à plusieurs mines de lithium, est soupçonnée dans une enquête pour corruption.
Julie Pietri avec Johanna Gabric pour le reportage. Le reportage, je tiens à le dire, que Julie a sollicité l'Agence pour l'environnement, l'entreprise Savannah aussi à maintes reprises, qui n'a donné suite à aucune demande d'interview. L'actualité internationale cachée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche.
Les différents secteurs représentés au Conseil présidentiel de transition.
Et c'est d'abord en Haïti, Kevin, que nous sommes, qui fait un premier pas vers la transition.
Oui, les forces politiques haïtiennes ont trouvé un accord pour former un Conseil de transition présidentiel, prévu pour durer un peu moins de 2 ans maximum. La feuille de route est claire, rétablir l'ordre dans le pays sans président depuis 3 ans, en proie à une violence inouïe et contrôlée en grande partie par des gangs, et organiser des élections libres. En pratique, ce Conseil sera composé de représentants des principaux partis politiques, mais aussi de personnalités de la société civile. Et il va d'abord devoir désigner un Premier ministre pour remplacer Ariel Henry, qui a démissionné il y a un mois. Premier ministre qui lui-même nommera un gouvernement dont tous les membres devront s'engager à ne pas se présenter aux élections. L'instance souhaite siéger au Palais National de Port-au-Prince, pourtant régulièrement pris pour cible par les gangs ces dernières semaines.
Et nous voici en Inde, où une candidate aux législatives doit s'expliquer sur son alimentation.
Oui, l'actrice Kangana Ranaut, très populaire en Inde, se présente pour devenir députée sous les couleurs du BJP, le parti nationaliste hindou au pouvoir, celui du Premier ministre Narendra Modi. Et depuis plusieurs jours, elle est au cœur d'une polémique. Un membre de l'opposition l'accuse de manger du bœuf. Sauf que c'est rigoureusement interdit dans l'hindouisme, les bovins sont sacrés, et ça prend une telle ampleur que la candidate se justifie sur les réseaux sociaux parlant de rumeurs honteuses, sans fondement. « Je ne mange pas de bœuf ni aucune viande rouge », écrit-elle. Encore, il faut dire que cette question du bœuf est inflammable en Inde. Certains s'en servent pour persécuter des musulmans par endroits attaqués parce qu'ils en mangent. Dans plusieurs régions dirigées par le parti de Modi, la vente et la consommation de viande bovine est totalement interdite.
Et nous sommes aux États-Unis, où on n'a jamais autant parlé des basketteuses.
Et ce, grâce à une phénomène, Caitlin Clark, 22 ans, sa grande queue de cheval et son numéro 22, la joueuse des Iowa Hawkeyes est la star du basket universitaire cette saison, et ce malgré la défaite de son équipe face aux Gamecocks de Caroline du Sud en finale dimanche soir. Finale au cours de laquelle elle a marqué 30 points sur les 75 inscrits par son équipe. Des statistiques folles, des paniers à 3 points qui régalent les amateurs sur Internet et à la télé. On a commencé la saison devant 55 000 personnes, on finit avec 15 millions de téléspectateurs ou plus encore, disait-elle en conférence de presse dimanche soir. C'est en effet plus, puisque c'était 18,7 millions de personnes devant la télé dimanche, avec un pic à 24 millions. Dites-vous que c'est la meilleure audience pour un match de basket aux États-Unis depuis 5 ans, NBA compris, c'est-à-dire le championnat professionnel des garçons. Caitlin Clark fait donc mieux que Wembanyama, et ça ne fait que commencer. Dans quelques jours, elle sera la première joueuse choisie lors de la draft, le moment où sont sélectionnées les meilleures jeunes joueuses par les équipes pro de WNBA.
Et ben, bravo à elle et merci à vous, Kevin Dufraîche. Je vous partais avec Nick Cave and the Bad Seeds, Wild Gods. C'est un extrait du 18e album du groupe australien, et c'est un extrait que vous avez d'ailleurs pu entendre en avant-première il y a un petit moment maintenant dans Un jour dans le monde.
Once upon a time, a wild god zoomed all through his memory, in which he was entombed. And he flew out the window with his long trailing hair, and the smoke from the bodies went straight up in the air. He was a wild god searching for what all wild gods are searching for, and he flew through the dying city like a prehistoric bird. He went searching for the girl down on a Jubilee Street, but she died in a bedsit in 1993. So he flew to the top of the world and looked around and said, where are my people? Where are my people to bring your spirit down?
searching for a faraway girl who was basically a mirage that nevertheless loomed large. She would hang under the rail as he blew round the room and make love with a kind of efficient gloom. 'Cause I'm a wild god flying and a wild god swimming, and I'm an old sick god dying and crying and singing.
Cave and the Bad Seeds, Wild Gods sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le Monde à 18h49, c'est Antoine Malouf.
Fabienne Saint-Ès. Le 18-20.
Antoine, vous revenez sur cette tribune publiée hier dans Le Monde où Emmanuel Macron réclame avec le président égyptien Al-Sisi, avec le roi de Jordanie, un cessez-le-feu immédiat à Gaza. C'est quoi l'objectif de cet appel?
Eh ben justement, c'est un peu le problème. Sur le fond, ce texte qui parle aussi d'une solution à deux États est en tout point irréprochable. Après, on peut s'interroger sur son efficacité. Les trois dirigeants s'adressent sans doute plus à leur opinion publique qu'à Israël ou au Hamas. Parce que diplomatiquement, que des chefs d'État soient obligés de passer par une tribune pour réclamer la paix, ça ressemble surtout à un aveu d'impuissance. Alors oui, une trêve à Gaza n'a peut-être jamais été aussi proche. Les négociations se poursuivent au Caire et le Hamas étudie une proposition israélienne. Mais ça signifie pas du tout la fin de l'intervention de Tsahal. Hier, Netanyahou a encore répété qu'une opération à Rafah aurait lieu et il a même dit que la date avait été choisie. Les autorités israéliennes ont aussi annoncé qu'elles avaient déjà commandé 40 000 tentes pour les futurs réfugiés palestiniens que cette opération allait engendrer. On peut donc se demander ce qui pourrait empêcher cet assaut.
Alors, c'est peut-être du côté des États-Unis qu'il faut regarder, non?
Alors oui, la Maison-Blanche a mis en garde Tel Aviv, et plus globalement, elle a haussé le ton, notamment depuis la mort de 7 humanitaires la semaine dernière dans une frappe israélienne. Mais quand bien même Washington mettrait son veto à une opération à Rafah, il n'est pas certain que Netanyahou obéisse. Parce que Bibi a surtout un objectif, c'est de se maintenir au pouvoir, quoi qu'il en coûte. En ce moment, il y a un procès en cours contre lui pour corruption et il sait qu'il risque gros. Donc aujourd'hui, le meilleur garant de sa survie politique, eh ben, c'est la guerre. Quitte à l'étendre à la frontière nord avec le Hezbollah libanais ou à risquer une confrontation avec l'Iran.
Alors, sauf qu'en Israël, les manifestations se multiplient pour demander la libération des otages, mais aussi son départ.
Et c'est vrai, et d'ailleurs, elle rassemble de plus en plus de gens. Les Israéliens ne lui font plus confiance pour mener ce conflit. La semaine dernière, Benny Gantz, le chef de l'opposition, qui est aussi ministre, a brisé un tabou en demandant à ce que des élections anticipées soient organisées en septembre. Les sondages montrent que le Likoud, le parti de Netanyahou, s'effondrerait. Après, les choses peuvent aussi prendre un autre tournant. Si une trêve est signée prochainement, une nouvelle séquence s'ouvrira. Netanyahou pourrait regagner un peu de crédit et quelques semaines de répit pour ensuite relancer la guerre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une majorité d'Israéliens approuve toujours l'idée qu'il faut en finir avec le Hamas. Et puis de toute façon, Netanyahou est piégé par sa coalition et le pacte faustien qu'il a passé avec les partis extrémistes. Hier, Itamar Ben-Gvir, le ministre ultranationaliste de la Sécurité nationale, a prévenu que s'il y a pas d'opération à Rafah, eh bien il ferait tomber le gouvernement. Donc Netanyahou est condamné à poursuivre cette course en avant, à être ce capitaine d'un bateau qui n'a pas de cap et qui se dirige droit vers des récifs. Mais tant qu'il n'a pas échoué, il continue d'avancer.
Antoine Malouf, merci beaucoup. On se retrouve demain. Le mardi, on ouvre les portes de l'Europe une par une avec Caroline Gillet. C'est Caroline au pays des 27 après les trois coups.
France Inter. Le 18-20.
Ah, et chaque semaine, vous nous présentez quelqu'un à Bruxelles, Caroline Weyer d'ailleurs, qui travaille autour des institutions européennes. Aujourd'hui, on retrouve Laura, qu'on a déjà entendue la semaine dernière à Paris.
Oui, et cette fois, elle est à Bruxelles, Laura Verrec, qui organise des visites guidées appelées Dark Side of EU, le côté sombre de l'UE. Elle emmène qui le souhaite se promener autour des institutions pour comprendre le rôle des lobbies. Et ça commence sur le rond-point Schuman. Qui se souvient de ce qu'il y a sur le rond-point Schuman? Au hasard, Fabienne.
Et il y a la Commission, il y a le Conseil.
C'est ça, deux des trois institutions
les plus importantes
avec le Parlement. Elle a la réponse.
J'ai tellement triché.
Avec le Parlement qui a 15 minutes à pied. Et sur ce rond-point, tout autour, il y a aussi donc des lobbyistes.
Allez. Si on commence par la gauche, il y a l'Occitanie. Et c'est intéressant parce qu'il faut se rappeler que les régions font pas mal de lobbying au niveau européen, notamment pour obtenir des fonds européens. À côté, on a BP Shell qui est dans ce bâtiment. Et là, vous avez notamment le lobby du tabac, mais vous avez aussi une partie du lobby agro-industriel.
J'entendais ploc, 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 et je me demandais ce que c'était, mais en fait, c'est les gouttes d'eau sur le micro. On est à Bruxelles, et donc, il s'est mis à pleuvoir. Vous m'aviez dit que sur un tour comme ça, il fallait toujours prévoir des points de repli.
Justement, on va aller au lobby du tabac, et on sera à l'intérieur.
Ok.
Là, on se met à l'abri avec plein d'autres gens devant un des grands bureaux.
Ce qui est très rigolo aussi, c'est qu'on entend parler toutes les langues, évidemment.
Exactement, j'étais en train de me demander si c'était bulgare ou russe.
Russe. Oui, Laura parle russe. Elle a appris à l'école parce qu'elle voulait devenir espionne. C'est pour ça qu'elle est partie un an à Saint-Pétersbourg, puis à Manchester pour faire des études européennes. C'est là qu'un voisin de palier lui a parlé de Greenpeace. C'est comme ça qu'elle a pu assister à des COP sur le climat. Puis quand elle faisait du woofing en Espagne, elle a rencontré une Hawaïenne qui lui a proposé d'enseigner le français au Costa Rica. Puis elle a perdu un pari avec un pote belge auquel elle rendait visite en Nouvelle-Zélande et elle s'est donc retrouvée à Bruxelles. Elle est finalement restée là et elle travaille à l'Observatoire des multinationales. Elle est donc quand même un peu espionne.
C'est ça, j'espionne les lobbies, sauf que je travaille pas pour un État, mais pour une petite ONG, on est trois.
Ici on est au rond-point Schuman numéro 6.
Il y a un lobby français, le lobby du gaz.
GRT Gaz.
Et vous avez aussi le lobby des voitures, ACA.
Bruxelles, c'est la deuxième capitale des lobbyistes après Washington.
À Bruxelles, on dit entre 20 et 30 000. Et la raison pour laquelle on n'a pas le chiffre exact, c'est parce qu'on va seulement vous demander d'être enregistré si vous allez voir un commissaire ou quelqu'un de son cabinet. Enregistré, ça veut dire, sur un site internet, dire votre budget, votre nombre d'employés, le nombre de rendez-vous que vous avez, etc., etc. Quand vous vous entretenez avec un ou une commissaire ou les membres de son cabinet, c'est obligatoirement enregistré. Mais si vous allez voir un fonctionnaire européen à un niveau plus bas, ce n'est pas forcément enregistré et ce n'est pas public. Un lobbyiste un jour m'a dit, si vous devez finir par vous entretenir avec le commissaire, c'est que vous n'avez pas réussi votre stratégie de lobbying, parce que vous n'avez pas réussi à convaincre les personnes qui écrivent la loi.
On peut rentrer comme on veut. Okay.
On arrive avec Laura dans le lobby de l'immeuble où se trouve un des lobbies du tabac. Laura me parle de ce qui s'est passé aux États-Unis en 1953. Face aux découvertes scientifiques qui tendaient à montrer que fumer tue, on conseille au lobby du tabac de produire à leur tour des études.
Quand vous parlez aux politiques, vous parlez à des gens qui ont étudié le droit, l'économie, la sociologie ou la politique, mais vous parlez rarement à des toxicologues ou des biologistes. Donc ce qu'il faut faire, c'est financer certains types de recherches et vous présenter ces résultats contradictoires aux politiques, et comme ils n'iront pas dans le protocole, le choix des cobayes, etc., etc., ils vont lire des études scientifiques contradictoires. Tant qu'ils ne savent pas quoi faire, ils doutent. Et tant qu'ils doutent, ils ne passent pas de loi. Et on va appeler ça plus tard la manufacture du doute, parce que c'est une stratégie qui va être prise par le lobby des énergies fossiles, par le lobby des pesticides, le lobby du sucre, le lobby du cholestérol.
Vous avez imprimé un graphique sur une grande page A3 plastifiée.
Il y a marqué en dessous « Classified Internal Use ».
C'est un document interne à Coca-Cola qu'on a réussi à avoir. Oui.
Comment vous avez fait ?
Ah, ça, je ne le dirai pas.
Vous connaissez des taupes ?
Je connais des anciens lobbyistes, oui. Alors, en fait, il y a plein de points. Les points, c'est les lois européennes en cours d'élaboration. Elles sont tout en haut du graphique si elles vont avoir un impact sur les profits de Coca-Cola. Et donc, on pense souvent que le métier de lobbyiste, c'est super sexy, qu'on va dans des réceptions, qu'on boit plein de café. Mais il y a quand même une grosse partie du métier de lobbyiste qui est beaucoup moins sexy, qui est justement de remplir ces tableaux. Donc de savoir, est-ce que la France est d'accord ou pas pour taxer les sodas? Est-ce que les Allemands sont d'accord pour qu'on interdise la pub de soda aux enfants de moins de 12 ans, etc., etc. Et donc ça leur permet d'influencer le problème à résoudre. Donc plus le tôt ils le savent, plus vite ils se préparent. S'ils n'arrivent pas à modifier la loi et que la loi risque de passer, alors là on voit vraiment le mot, et je trouve que le mot est intéressant, c'est « fight back », donc c'est vraiment se battre contre la loi.
Pour son travail, Laura vérifie plein de choses. Est-ce que les députés déclarent bien leur voyage à l'étranger, comme la réglementation l'exige ? Et elle me parle d'une loi qui lui permet d'enquêter.
Oui, alors en fait, il y a une loi européenne qui me permet de demander à la Commission plein de documents. Donc c'est ce que je fais, je vais regarder les agendas des commissaires et des membres de leur cabinet. Et quand je vois qu'ils ont vu des lobbies qui m'intéressent, je leur demande des documents. On connaît très peu l'Europe. Et donc, en fait, on sait très peu ce qui se passe à Bruxelles. Et donc, comme il n'y a pas ce contre-pouvoir citoyen, pas assez médiatique et pas assez parlementaire au niveau national, moi, c'est ce que j'essaye d'éveiller. D'éveiller un peu un intérêt pour l'Europe et de donner d'autres voix que celles des lobbies industriels dans le jeu politique européen.
Voilà, si vous souhaitez participer à un lobby tour, j'ai mis les informations et les liens sur la page Caroline au pays des 27 sur franceinter.fr. Et la plupart du temps, ils sont payants, sauf 2-3 fois par an. Le prochain lobby tour gratuit, c'est le 1er juin.
Ben voilà, on a pris note, Caroline au pays des 27, c'est tous les mardis. Merci beaucoup, Caroline. Devant une autre porte, donc mardi prochain, le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h. Et ce sera Céline Asselot. Et juste après, il y a le téléphone sonne. Bonsoir Fabienne Lemoyle.
Bonsoir Fabienne.
Rédactrice en chef du 18-20 cette semaine. Et ce soir, notre thème, c'est l'assurance chômage.
Et oui, avec cette question, est-ce qu'on va vers un nouveau tour de vis de l'indemnisation des chômeurs avec cette troisième réforme depuis 2017 que le gouvernement veut mettre en chantier? Piste privilégiée par Gabriel Attal, la réduction de l'indemnisation. Aujourd'hui, c'est 18 mois, demain 14 ou peut-être 12, comme en Allemagne. L'objectif affiché du gouvernement, inciter au retour à l'emploi, un objectif qui laisse dubitatif Nicolette dans l'Ardèche. Quand on parle des chômeurs, on oublie rarement pourquoi ils sont au chômage, dit-elle. Ils ont souvent été licenciés à cause de restructuration. Ce ne sont pas des travailleurs qui ont quitté leur emploi de plein gré. Autre question, est-ce que cette réforme permettra de remplir les caisses? La Pierre de Guadeloupe propose une solution radicale. Si on cherche des sous, lorsqu'un employeur remplace 10 employés par un robot, il faut demander à l'entrepreneur de payer des charges sociales pour ses 10 employés.
Eh ben dites donc, vous en avez des idées. 01 45 24 7000 pour dialoguer avec nous. Le même chemin par WhatsApp. À tout de suite.